Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes, à tous. Je suis très honoré également d'être présent cet après-midi parce que finalement, l'hommage rendu aujourd'hui à Françoise Seligman, c'est pour moi aussi l'occasion de démontrer que son engagement et ses idées peuvent produire de véritables effets dans l'éducation des jeunes. Alors, pour comprendre un petit peu, on a déjà beaucoup parlé du lycée Robert Doisneau. Le lycée de Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes, dont je suis le proviseur, est l'un des plus importants lycées polyvalents d'Île-de-France. Il accueille un peu plus de 2600 élèves et étudiants, dont une bonne partie est issue de milieux défavorisés. Cet établissement se situe dans le quartier des Tarterets, qui est classé à Corbeil-Essonnes en zone de sécurité prioritaire depuis l'année dernière. Architecturalement parlant, il est constitué, ce lycée, de deux grandes barres de béton d'environ 200 mètres de long sur quatre étages. Et c'est donc un édifice qui est très caractéristique des constructions de la fin des années 50. Donc dans ces conditions, a priori peu favorables, on se pose plusieurs questions, évidemment. Comment répondre aux grands enjeux de l'école laïque et républicaine au sein d'un quartier difficile ? Quelle mission pouvons-nous mettre en œuvre pour garantir finalement la liberté, l'égalité et la fraternité? Que devons-nous apporter et proposer aux élèves pour les placer en situation de réussite afin qu'ils s'épanouissent, qu'ils deviennent donc des citoyens autonomes et responsables? Depuis plusieurs années, et vous en avez déjà eu un témoignage, la communauté éducative du lycée a placé le vivre ensemble au cœur du projet d'établissement. Il s'agit pour nous d'une véritable constante dans les pratiques, d'une philosophie que nous déclinons quotidiennement afin de favoriser l'égalité des chances. Il est important de dépasser les clivages de toutes sortes, qu'ils soient sociaux, culturels, intergénérationnels, pour rendre possibles les rencontres et pour créer des opportunités propices aux échanges et à l'écoute mutuelle. Cette notion du vivre ensemble, qui était très chère à Françoise Seligman, se traduit par des projets soutenus grâce à de nombreux partenariats. Nous sommes convaincus qu'aux mots, il faut ajouter des actions concrètes et fortes pour que les idées prennent sens. Et c'est au travers donc de ces actions que l'apprentissage de valeurs communes est la plus efficiente. Donc je vous propose, pour illustrer mes propos, de vous présenter quelques-unes de ces actions. Tout d'abord, évidemment, notre partenariat avec la Fondation Seligman, qui a permis la prise en charge intergénérationnelle de sorties scolaires. Donc ainsi, des étudiants du lycée accompagnent des jeunes élèves des écoles de Grigny lors de visites dans des musées afin de leur faire découvrir des œuvres d'art. Et en s'appuyant sur cette expérience de partage, la Fondation nous a également permis de finaliser le partenariat avec le Musée du Louvre en soutenant donc des projets artistiques et culturels proposés dans le cadre du réseau Éclair. Bien sûr, d'autres projets sont réalisés dans le même esprit. En effet, et je pense que les anciennes élèves ici vous le confirmeront, l'année scolaire d'un lycéen au lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes est rythmée par plusieurs temps forts, dont la vocation est de tisser des liens sociaux entre des élèves d'origines diverses. Par exemple, donc, à l'entrée en classe de seconde, tous les élèves, je dis bien tous les élèves qui rentrent en classe de seconde, se voient bénéficier d'un stage d'accueil ou d'un séminaire d'intégration. L'objectif principal est d'apprendre, évidemment, à se connaître et à vivre ensemble au sein de la classe. Il s'agit de construire ce que nous appelons la communauté classe, c'est-à-dire de faire se rencontrer des diversités et des cultures de vie différentes. Mieux se comprendre, accepter la différence, c'est créer des liens favorisant les apprentissages et qui permettent d'accéder au savoir pour chacun. Mais le temps fort qui marque la scolarité et plus largement sûrement la mémoire des lycéens est incontestablement le bal Doisneau qui a lieu en décembre avant les congés de Noël. Il regroupe tous les élèves de seconde et de première, soit donc environ 1500 élèves, sur 3 jours pour l'intégration et l'interprétation donc de danses collectives traditionnelles. Alors ça passe par des gigues, des quadrilles, donc des danses qui sont jouées par un ensemble instrumental professionnel. L'idée de départ est très simple. Il s'agit de faire ensemble pour mieux vivre ensemble. Donc ce bal d'Oineau est un temps de rencontre, de partage, qui favorise à la fois le brassage social et joue un rôle fondamental dans l'intégration, la lutte contre les violences et le respect de l'autre. Ces pratiques collectives anciennes qui se transmettaient autrefois de génération en génération dans nos campagnes contribuent ici à la création d'un climat apaisé, propice aux apprentissages et au sentiment d'appartenance à la communauté du lycée. Enfin, la découverte du beau, on en a parlé tout à l'heure, est soutenue au lycée Robert Doisneau par des pratiques artistiques et culturelles riches et variées. Au-delà de la carte des formations, complète dans les disciplines artistiques, le grand nombre de sorties à caractère culturel témoigne de l'intérêt et de l'ouverture des élèves. L'ouverture culturelle, et je sais que j'ai pas beaucoup de personnes à convaincre ici, participe au développement intellectuel des élèves et permet ainsi de faire progresser la réussite scolaire. Nous organisons également deux temps forts artistiques chaque année. La première avec la venue du Paris Mozart Orchestra, qui est une formation symphonique dirigée par Claire Gibault. Donc c'est l'occasion de mener un travail croisé entre les élèves et des artistes. Et cette action atteste de la volonté forte de l'établissement de proposer l'excellence musicale, en premier lieu au sein même de l'établissement par un projet collectif qui prend sa source dans l'émotion première du partage vocal et instrumental. Et par la suite, les élèves et leurs familles, et là c'est très important, sont invités à des concerts dans des salles de spectacle de prestige à Paris, Pleyel, Gaveau, afin de leur donner l'envie d'écouter de la musique. Le deuxième temps fort que j'évoquais concerne un festival que l'on organise au lycée qui s'appelle le Festival Les Arts s'en mêlent et qui, comme son nom l'indique, propose au mois de mai de croiser les regards sur les différentes pratiques des options artistiques, donc cinéma, audiovisuel, théâtre, arts plastiques, musique, danse, histoire des arts, donc l'ensemble. Une autre action menée au lycée Robert Doisneau, dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'est que nous participons au dispositif dérogatoire de recrutement à Sciences Po avec la convention ZEP qui avait été initiée par Richard Descoings. Alors, historiquement, vous avez entendu que 5 anciennes élèves avaient été admises à Sciences Po. L'année dernière, nous avions également encore 5 élèves admises à Sciences Po et j'ai souhaité aujourd'hui être accompagné des 7 élèves admissibles à ce concours pour la session en cours. Donc ils sont présents dans la salle. Oui, bravo. On leur souhaite évidemment bonne chance pour la suite. Alors enfin, et pour terminer, donc cette volonté de proposer l'excellence se fait jour aussi par le biais de cycles de conférences à l'attention des lycéens, un cycle intitulé « Les mardis de Doisneau ». Nous accueillons donc des intervenants de haut niveau dans tous les domaines, donc les arts, sciences, lettres, économie, philosophie. Cette année, nous avons notamment eu le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est à la table, Monsieur Lilian Thuram, pour débattre avec les élèves de la lutte contre le racisme et les différentes discriminations. C'est encore une fois l'occasion de le remercier pour sa venue. Et puis, la semaine dernière, nous avons accueilli M. Raphaël Esraï, qui est président de l'Union des déportés d'Auschwitz et qui s'est adressé donc, à 250 élèves pour leur offrir un témoignage donc, particulièrement émouvant sur ces années de résistance et de déportation. Pour conclure, parce qu'il ne faut pas dépasser les 10 minutes, je dirais que la volonté de faire vivre ensemble plus de 2600 élèves dans un établissement scolaire passe nécessairement par des actions qui favorisent la dimension humaine, le respect de l'autre, le partage et les luttes contre les discriminations et les idées reçues. Grâce à l'implication remarquable des enseignants et plus largement de l'engagement quotidien de tous les personnels du lycée Robert Doisneau, nous contribuons évidemment à la réussite des élèves qui nous sont confiés non seulement sur le plan scolaire, mais aussi et surtout d'un point de vue humain, en participant à la construction individuelle de chacun, et les anciennes élèves présentes ici nous le prouvent, et surtout aussi nous contribuons à former les futurs citoyens de demain. Merci.
Merci beaucoup. Madame Boulanger, vous êtes directrice d'école dans le 20e arrondissement. Vous êtes membre aussi du conseil d'administration de la Fondation François Seligman.
Bonjour à tous. Donc, effectivement, il y a deux temps par rapport à François Seligman que je voudrais aborder. Le premier temps, c'est celui où, en déposant des projets, des demandes d'aide, j'ai été subventionnée par la Fondation. Les projets de l'école, les collègues et les élèves ont pu bénéficier de la générosité de la Fondation Seligman. À ce moment-là, j'ai été directrice dans le 18e arrondissement de Paris, dans une école en zone d'éducation prioritaire dans le quartier La Chapelle, et où, avec des collègues directeurs, nous avions également initié une association qui permettait de compléter nos actions du temps scolaire en proposant aux élèves et à leurs familles des projets culturels, des projets de médiation, des projets dont on parle encore, je pense, se dénommait Papothèque, où nous invitions les parents de diverses origines à venir parler à l'école, hein, papo, on papote, tech du savoir, donc aider de traducteurs, nous pouvions aborder l'école en France, mettre en lien l'école dans les pays d'origine et ce qui se passait pour leurs enfants dans nos écoles, et puis bien d'autres actions encore. Comme mon collègue, effectivement, au cœur de notre travail, du moins pour moi, c'est une valeur essentielle, c'est le vivre ensemble que nous devons faire passer à nos élèves et à leurs parents aussi. Et le vivre ensemble, comme l'a dit aussi mon collègue, pour moi, il passe par deux domaines extrêmement forts, le domaine de la citoyenneté et le domaine de la culture. Parce que lorsque on donne, et j'en suis de plus en plus convaincue, lorsqu'on donne des objets culturels communs à partager à des élèves, ils se sentent soudain appartenir à une vraie collectivité, ils échangent, ils argumentent, ils deviennent de vrais citoyens éclairés. Et ça, c'est vraiment des valeurs très, très importantes que je défendrai jusqu'au bout de ma carrière. Et puis le deuxième temps, ça a été à l'appel d'Annie de pouvoir participer au conseil d'animation de la Fondation et à mon tour pouvoir rencontrer des acteurs du vivre ensemble, de la citoyenneté, des acteurs associatifs, des acteurs du monde de l'éducation nationale qui voulaient, comme nous, apporter la culture, les valeurs de la République à tous nos élèves et aussi la réussite scolaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Françoise. Parce qu'avec Annie, bien sûr, nous nous rendons dans des associations pour rencontrer les gens, pour discuter, pour parler de leurs projets et de leurs envies. Et puis après, il y avait toujours un temps où nous nous retrouvions dans la maison des Invalides, dans cette salle, où Françoise était assise dans son fauteuil avec sa petite cigarette et son petit cendrier, et où, bien comme tout le monde, hein, cette impression revient à chaque fois à cette petite dame avec cette grande force qui n'a fait que me conforter dans les valeurs que je défends, qui a été une rencontre essentielle de ma vie. Je n'ai pas l'âge de ces jeunes filles qui sont à Sciences Po, mais comme elles, j'ai été encouragée par la force de cette dame, par la vie qu'elle a eue. Et puis, ces moments où nous discutions beaucoup sur des projets longuement et où d'un seul coup, elle disait « celui-là, c'est non ». Et la discussion s'arrêtait. Voilà. Donc, ce que je veux dire surtout, c'est que tous ces projets, je ne vais pas vous citer tous les projets que nous faisons dans les écoles, je suis maintenant dans le 20e arrondissement, mais je continue à défendre ces valeurs. Hein, Nous allons dans les musées, nous emmenons les enfants visiter des lieux, des monuments historiques. Nous rencontrons des auteurs de littérature jeunesse. Nous créons des débats, des échanges, des débats littéraires. Bon, voilà, nous faisons beaucoup de choses de cet ordre-là. Avec des élèves qui ne disent plus « je viens à l'école, mais je viens dans mon école ». Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est un véritable changement dans le discours, dans le positionnement, et forcément, ça ne peut apporter que la réussite scolaire. Et je remercie Françoise Seligman de m'avoir aidé à porter ses valeurs et à pouvoir continuer à les défendre avec sa mémoire. Pour terminer, deux choses. La première, c'est ce petit abécédaire de la citoyenneté que nous avions réalisé dans l'école où je travaillais dans le 18e arrondissement, qui avait été réalisé par tous les élèves de l'école. Alors, comme son nom l'indique, hein, un mot par lettre, je vais ouvrir au hasard. Ah, M, maison, c'est pour habiter et vivre, et tout le monde a le droit d'avoir une maison. Voilà. Et tout ce petit abécédaire, quand j'arrivais chez Françoise, il était toujours placé derrière son fauteuil sur une petite étagère, et régulièrement, elle le sortait et elle le feuilletait. Et pour moi, c'est un souvenir extrêmement important. Et puis, la dernière chose... je regrette que cet hommage arrive cette semaine. Il aurait fallu qu'il arrive quelques jours avant parce que j'avais une question à poser à monsieur Delanoë, mais c'est un peu tard. À Paris, les écoles ne portent pas de nom, contraire, très peu. Alors, effectivement, les collèges portent des noms, mais les écoles primaires n'ont pas de nom à Paris, ce qui est quand même une étrangeté. Tout à fait national, hein. Les écoles ont des noms partout. Alors je voudrais demander, si c'était possible, mais là malheureusement c'est un petit peu tard, mais j'aimerais tellement que l'école que je dirige s'appelle l'école Françoise Seligman. Hein. Voilà, en tout cas je n'oublierai jamais cette petite femme au grand cœur, hein, et à une force extraordinaire. Merci à elle pour tout ce qu'elle a fait.